Un fragment précise la nature et les raisons de l'opposition que manifeste Gwyndor à la politique défendue par Turin à Nargothrond, une opposition à laquelle il n'est fait que très brièvement allusion dans le Silmarillion. Ce fragment ne forme pas un récit à proprement dit, mais on peut le reconstituer comme suit. Gwyndor s'élevait contre Turin au conseil du roi, disant qu'il avait été lui à Angband et savait quelque chose de la puissance de Morgoth et de ses desseins. « Les petites victoires ne nous seront d'aucun profit, » disait-il, « car en définitive, elles permettent à Morgoth de localiser les plus audacieux de ses ennemis et de rassembler des forces suffisantes pour les détruire. La puissance réunie des elfes et des Edain a tout juste réussi à contenir Morgoth et à nous procurer le répit de l'état de siège. Un long répit, en effet, mais uniquement parce que Morgoth attendait son heure pour briser le siège et jamais plus on ne verra une telle union. À présent, tout notre espoir réside dans le secret, jusqu'à ce que viennent les Valar. « Les Valar, » dit Turin, « ils vous ont abandonnés, et ils n'ont que mépris pour les hommes. À quoi bon tourner son regard vers cet ouest à l'horizon de la mer infinie? Nous n'avons affaire qu'à un seul Valar, et c'est Morgoth. Et si, en fin de compte, nous ne pouvons le vaincre, du moins pouvons-nous le meurtrir et contrer ses desseins. Car une victoire est une victoire, quelque minime soit-elle, et sa valeur ne dépend pas uniquement de ce qui s'ensuit. Mais elle est également fort utile, car si vous ne faites rien pour arrêter Morgoth, tout le Beleriand va tomber sous son ombre avant bien peu d'années, et un par un, il vous débusquera de vos tanières. Et que se passera-t-il alors? Une misérable poignée de survivants s'enfuira vers le sud et l'ouest pour se terrer sur les rivages de la mer, pris entre Morgoth et Ossée. Mieux vaut gagner un instant de gloire, même de brève durée, car la fin n'en sera pas moins terrible. Vous défendez la discrétion, et dites que c'est là le seul espoir. Mais même si vous pouviez par ruse et embuscade attraper tous les éclaireurs et espions de Morgoth jusqu'au dernier et au plus humble, de sorte qu'aucun ne puisse retourner à Angband avec son butin de nouvelles, Morgoth n'en apprendrait pas moins que vous êtes en vie, et il devinera où. Et j'ajouterai cela, bien que les hommes mortels n'aient qu'une vie brève comparée au temps alloué aux elfes, ils préfèrent la passer à se battre, plutôt que de s'enfuir ou de se soumettre. Le défi porté par Aurin Thalion est un exploit insigne, et bien que Morgoth en ait tué l'auteur, il ne peut faire que l'exploit n'ait eu lieu. Il sera honoré, même des seigneurs de l'Ouest, et son exploit n'est-il pas consigné dans l'histoire d'Arda, que ni Morgoth ni Manwë ne peuvent effacer ?«
Tu parles là de nobles choses, » répondit Gwyndor. Et il est évident que tu as vécu parmi les Eldar. Mais une ombre t'enveloppe si tu tiens Morgoth et Manwë au même titre, ou parle des Valar comme des ennemis des elfes et des hommes. Car les Valar n'ont mépris pour personne, et surtout pas pour les enfants d'Ilúvatar. De plus, les espoirs des Eldar ne te sont pas tous connus. Selon une prophétie qui a cours parmi nous, un messager de la Terre du Milieu franchira les ténèbres, et atteindra le Valinor. Et Manwë écoutera, et Mandos s'apaisera. Et pour ce temps à venir, ne nous faut-il pas préserver les semis des Noldor et celles des Edain aussi bien? Et Círdan séjourne à présent dans le sud, et on y construit maint navire. Mais que sais-tu des navires ou de la mer? Tu ne penses qu'à toi et à ta propre gloire, et tu nous enjoins à chacun de nous de faire de même. Mais il nous faut songer à d'autres que nous, car tout le monde n'est pas capable de lutter et de tomber au combat. Et ces autres, il nous faut les protéger de la guerre et de la ruine tant que nous pouvons. « Alors confie-les à tes navires tant qu'il est encore temps, » dit Turin. « Ils refusent de se séparer de nous, » dit Gwyndor, « quand bien même Círdan les pourrait tous prendre à charge. Il nous faut durer ensemble tant que faire se peut et ne pas courtiser la mort. »
« À tout cela j'ai répondu, » dit Turin. « Assurer une courageuse défense des frontières et infliger à l'ennemi de rudes coups avant qu'il ne puisse rassembler ses forces. Cette voie reste votre unique espoir de préserver une longue vie ensemble. Et ces gens dont vous parlez, préfèrent-ils donc ceux qui rôdent dans les bois et chassent toujours comme des loups à celui qui se coiffe de son aume et s'arme de son écu armorié et repousse l'ennemi quand bien même les troupes adverses seraient plus importantes que la sienne ? Les femmes des Edain, elles, n'aiment point les rôdeurs. Elles n'empêchèrent pas les hommes de partir pour les Nirnaeth Arnoediad.
mais elles ont souffert des maux bien plus terribles que si la bataille n'avait pas eu lieu, dit Gwyndor.
L'amour que Finduilas porte à Turin devait aussi être traité plus en détail. Finduilas, la fille de Rodreth, avait les cheveux d'or de ceux de la maison de Finarfin, et Turin vint à se plaire à sa vue et en sa compagnie, car elle lui rappelait sa famille et les femmes du Dorlomine de la maison de son père. Au début, il la voyait seulement en la présence de Gwyndor, mais bientôt, ce fut elle qui le chercha, et ils se rencontraient souvent seuls, bien que cela semblât un effet du hasard. Et elle l'interrogeait au sujet des Edain qu'elle avait rarement vus, et quelques-uns seulement, et sur son pays et sa famille. Et Turin lui parla librement de ces choses, bien qu'il ne lui nommât pas le pays de sa naissance, ni aucun de ses parents. Et une fois, il lui dit « J'avais une sœur, Laleth, ou du moins, est-ce ainsi que je l'appelais, et c'est elle que tu me remets en mémoire. Mais Laleth était une enfant, une fleur d'or dans la verte herbe printanière, et aurait-elle vécu qu'elle serait peut-être à présent toute ternie de chagrin. Mais toi, tu es majestueuse, et tel un arbre d'or. J'aurais souhaité une sœur aussi belle que toi. Mais tu es toi aussi majestueux, dit-elle, et semblable au seigneur des gens de Fingolfin. J'aurais souhaité un frère aussi vaillant. Et je ne pense pas qu'Agarwaen soit ton vrai nom, ni ne te convient-il, Adanedel. Je t'appellerai Thurin, le secret. » Turin à ces mots tressaillit, mais il dit « Ce n'est pas mon nom, et je ne suis pas un roi, car nos rois sont des Eldar, et je n'en suis pas un. » Or, Turin s'aperçut que l'amitié de Gwyndor se refroidissait à son égard, et il s'étonna fort de voir que si au début la douleur et l'horreur d'Angband avaient paru s'estomper dans son cœur, voilà que s'insinuait, semblait-il, en lui de nouveau la détresse et le chagrin. « Et, pensa Turin, peut-être Gwyndor s'afflige-t-il de ce que je m'oppose à ses avis et que ma voix l'ait emporté. J'aimerais qu'il n'en soit rien. » Car il aimait Gwyndor, comme celui qui l'avait guidé et soigné, et il était plein de compassion pour lui. Mais à la même époque, l'éclat de Finduilas s'obscurcit aussi. Son pas s'alanguit et son visage se fit grave. Et Turin, observant cela, présuma que les paroles de Gwyndor avaient semé en son cœur la crainte de l'avenir. En vérité, Finduilas était toute déchirée en son esprit, car elle respectait Gwyndor et elle avait grand pitié de lui, et elle souhaitait ne pas ajouter une seule larme à ses douleurs. Mais contre son gré, son amour pour Turin croissait de jour en jour, et elle songeait à Beren et Luthien. Mais Turin n'était pas comme Beren. Il ne la dédaignait nullement et se réjouissait en sa compagnie. Et pourtant, elle savait qu'il n'éprouvait pas pour elle le genre d'amour qu'elle souhaitait. Son esprit et son cœur étaient ailleurs, sur les rives de quelques rivières, en un lointain printemps. Alors Turin parla à Finduilas, disant « Ne laisse pas les paroles de Gwyndor t'effrayer. Il a souffert dans les ténèbres d'Angband, et c'est dur pour quelqu'un de si brave que de se retrouver infirme et réticent par la force des choses. Il a besoin de réconfort pour guérir, et de bien plus de temps.
« Je le sais bien, » dit-elle.
« Mais cette fois nous gagnerons pour lui, » dit Turin. « Nargothrond vivra. Jamais plus Morgoth le couard ne s'aventurera hors d'Angband, et il lui faudra entièrement s'en remettre à ses serviteurs. Ainsi parla Melian Odoriath, et ses serviteurs sont les doigts de ses mains. Et nous les frapperons, et nous les trancherons, jusqu'à ce qu'il retire ses griffes. Nargothrond vivra. »
Sans doute vivra Nargothrond, dit Finduilas, si tu peux accomplir un tel exploit. Mais prends garde à Danedel. J'ai le cœur lourd lorsque tu t'en vas au combat, de crainte que Nargothrond ne soit endeuillé.
Et peu après, Turin se mit en quête de Gwyndor et lui dit, Gwyndor, ami très cher, te voilà qui retombe dans la tristesse. Ne sois pas en peine, car tu vas trouver la guérison au foyer de tes parents et à la clarté de Finduilas. » Et Gwyndor considéra Turin, mais ne dit mot et se rembrunit.
« Pourquoi me regardes-tu comme cela ?» dit Turin. « Souvent ces derniers temps, tes yeux m'ont jeté des regards étranges. En quoi t'ai-je chagriné ? J'ai contré tes avis, mais un homme doit dire ce qu'il pense et non pas dissimuler la vérité en laquelle il a foi pour de quelconques raisons personnelles. je donnerais beaucoup pour que nous pensions de même, car je te dois une grande dette de reconnaissance,
et je ne l'oublierai pas.
Tu ne l'oublieras pas, dit Gwyndor. Pourtant, par tes actions et tes résolutions, tu as changé ma maison et les miens. Sur eux, tu as projeté ton ombre. Qu'ai-je à me réjouir, moi qui ai tout perdu en ta faveur ?
Mais Turin ne comprit pas ces mots, et crut seulement deviner que Gwyndor jalousait la place qu'il avait prise dans le cœur et dans les conseils du roi. Suit un passage où Gwyndor met en garde Finduilas contre son amour pour Turin, lui révélant qui est Turin, et ce passage reproduit de près celui donné dans le Silmarillion. Mais après les paroles de Gwyndor, Finduilas lui donne une réponse bien plus développée dans cette version.
« Tes yeux sont voilés, Gwyndor, » dit-elle. « Tu ne vois ni ne comprends ce qui est ici advenu. Dois-je subir double honte pour te révéler la vérité ? Car je t'aime, Gwyndor, et j'ai honte de ne pas t'aimer mieux. Mais je suis la proie d'un amour plus puissant encore, et dont je ne me puis délivrer. Je ne l'ai point recherché, et longtemps je l'ai écarté. Mais si j'ai pitié de tes douleurs, aie pitié des miennes. Turin ne m'aime pas, et il ne m'aimera jamais. »
Tu dis cela pour innocenter celui que tu aimes, dit Gwyndor. Pourquoi recherche-t-il ta compagnie, et reste-t-il assis longtemps à tes côtés, et s'en revient-il toujours plus joyeux ?
Parce qu'il a lui aussi besoin de réconfort, dit Finduilas, et il fait aussi le deuil des siens. Vous avez tous deux vos propres besoins, mais que dire de Finduilas ? Ne suffit-il pas que je me confesse à toi comme étant mal aimé ? Faut-il encore que tu me soupçonnes de parler ainsi pour te tromper ?
« Non, une femme se trompe rarement dans un tel cas, » dit Gwyndor, « et tu n'en trouveras guère qui nieront qu'elles sont aimées lorsque c'est le cas. »
« Si l'un de nous trois s'est montré déloyal, c'est moi. Pourtant ce ne fut point de plein gré. Mais qu'en est-il de ton destin et des rumeurs d'Angband ? Et qu'en est-il de la mort et de la destruction ? La Danedel est formidable dans les contes du monde et de taille à atteindre Morgoth en un lointain jour à venir. »
« Il est fier, » dit Gwyndor.
« Mais il est exorable aussi, » dit Finduilas. « Il n'est point encore éveillé, mais la pitié toujours peut atteindre son cœur, et il ne s'y refuse jamais. Peut-être la pitié sera-t-elle la seule voie d'accès à ce cœur. Mais de moi, il n'a point pitié. Il me tient en révérence, comme si j'étais tout ensemble, sa mère et une reine. »
Et peut-être Finduilas disait vrai, voyant les choses avec les yeux perçants des Eldar. Et Turin, ignorant tout de ce qui s'était passé entre elle et Gwyndor, se faisait toujours plus tendre à son égard, car il la voyait toujours plus triste. Mais une fois, Finduilas lui dit
« Turin Adanedel, pourquoi m'as-tu caché ton nom ? Si j'avais su qui tu étais, je t'aurais rendu honneur tout autant, mais j'aurais mieux compris ton chagrin.
« Que veux-tu dire ? » dit-il. « Qui me crois-tu ?
« Turin, fils de Urin Thalion, capitaine du Nord. »
Alors Turin reproche à Gwyndor d'avoir révélé son nom véritable comme il est relaté dans le Silmarillion. Un seul autre passage portant sur cette partie du récit existe sous une forme plus complète que dans le Silmarillion. On ne dispose d'aucune autre version de la bataille de Tum-Halad et du sac de Nargothrond. Tandis que les échanges entre Turin et le dragon sont si développés dans le Silmarillion qu'il est peu probable qu'ils aient été enrichis davantage. Le passage suivant est un récit beaucoup plus détaillé de l'arrivée des elfes Gelmir et Arminas à Nargothrond, l'année de sa chute. Le récit de leur rencontre avec Tuor au Dorlomine, à laquelle il est fait allusion ici, est évoqué dans le conte précédent. Au printemps vinrent deux elfes. Et ils avaient pour nom Gelmir et Arminas, des gens de Finarfin. Et ils dirent qu'ils avaient un message pour le seigneur de Nargothrond. On les conduisit devant Turin, mais Gelmir dit
« C'est à Orodreth, fils de Finarfin, que nous voulons parler. »
Et lorsque vint Orodreth, Gelmir lui dit
« Seigneur, nous étions du peuple d'Angrod, et nous avons erré au loin après la Dagor Bragolac. Mais récemment, nous avons vécu parmi les compagnons de Círdan, près des bouches du Sirion. Et un jour il nous manda, et il nous dépêcha auprès de toi, car Ulmo lui-même, le seigneur des eaux, a visité Círdan, mettant en garde contre un grave péril approchant de Nargothrond. »
Mais Orodreth était méfiant, et il répondit,
Pourquoi arrivez-vous ici depuis le nord? Ou peut-être aviez-vous encore d'autres missions à remplir?
Alors Arminas répondit.
Seigneur, depuis les Nirnaeth, je cherche sans discontinuer le royaume caché de Turgon, et ne l'ai point trouvé. Et dans cette quête, je crains avoir par trop différé ma mission auprès de toi. Car Círdan nous envoya le long de la côte par bateau, pour raison de secret et de rapidité, et on nous mit à terre au Dringist. Mais parmi les gens de la mer, il y en avait qui étaient venus au sud dans les années passées, comme messagers de Turgon. Et à travers leurs paroles réservées, j'ai cru comprendre que Turgon demeurait encore dans le nord, et non pas dans le sud, comme le croient la plupart des gens. Mais nous n'avons trouvé ni signe ni rumeur de ce que nous cherchions.
« Pourquoi cherchez-vous Turgon ?» dit Ordreth.
« Parce qu'on dit que son royaume sera le dernier à résister à Morgoth, » répondit Arminas.
Et ces mots parurent à Ordreth de mauvais augure, et il en conçut grand déplaisir.
« Alors ne vous attardez pas à Nargothrond, » dit-il, « car ici vous n'entendrez aucune nouvelle de Turgon, et je n'ai besoin de personne pour m'apprendre que Nargothrond est en danger. »« Ne sois pas courroucé, seigneur, » dit Gelmir, « si nous répondons par la vérité à tes questions. Et nos errances loin de la droite route n'ont pas été vaines, car nous avons poussé bien au-delà de tes avant-postes. » Nous avons traversé le Dorlomin et toutes les terres à l'ombre des Eredwethrin, et nous avons exploré la passe du Sirion, espionnant les mouvements de l'ennemi. Il y a un grand concours d'orques et de créatures maléfiques dans ces régions, et une armée se rassemble aux alentours de l'île de Sauron.
« Je le sais, » dit Turin. « Tes nouvelles sont périmées. Pour nous être de quelque utilité, le message de Círdan aurait dû nous parvenir plus tôt. »
« Au moins, seigneur, écoute maintenant le message, » dit Gelmir à Ordreth. « Écoute donc les paroles du seigneur des eaux. Ainsi parla-t-il à Círdan, le charpentier de Nef. Le mal du nord a souillé les sources du Sirion, et mon pouvoir se retire des doigts des eaux courantes. Mais il y a pire encore à venir. Mande donc au seigneur de Nargothrond ce qui suit. Ferme les portes de ta forteresse, et ne va point au dehors. » Jette les pierres de ton orgueil dans le tumulte de la rivière, que le mal qui va rampant ne puisse trouver tes portes. »
Ces paroles parurent obscures à Ordreth, et comme à son accoutumée, il se tourna vers Turin pour prendre conseil. Mais Turin se méfiait des messagers, et il dit avec dédain, « Que sait Círdan de nos guerres à nous qui vivons à proximité de l'ennemi? Que le navigateur s'occupe de ses navires? Mais en vérité, si le Seigneur des Eaux veut nous faire parvenir un conseil, qu'il parle plus simplement. Autrement, il nous semblera plus expédient de mobiliser nos armes et d'aller audacieusement à la rencontre de l'ennemi avant qu'il ne s'approche de trop. » Là-dessus, Gelmir s'inclina devant Ordreth et dit
« J'ai parlé comme on me l'avait enjoint de faire, Seigneur. »
Et il se détourna. Mais Arminas dit à Turin
« Es-tu vraiment de la maison de Hador, comme je l'ai entendu dire ?»
« Ici je suis Agarwaen, le noir épée de Nargothrond, » dit Turin.
« Tu excelles, semble-t-il, dans les propos secrets, sire Arminas, et mieux vaut que le secret de Turgon ne te soit pas confié, ou il serait promptement divulgué dans tout Angband. Le nom d'un homme lui appartient, et si le fils de Hurin apprend que tu l'as trahi quand il voulait rester caché, alors que Morgoth te prenne et qu'il te brûle la langue. » Lors, Arminas fut stupéfait par le noir courroux de Turin. Mais Gelmir dit
« Il ne sera pas trahi par nous, Agarwaen. Ne sommes-nous pas ici à tenir conseil derrière porte close, en un lieu où l'on peut parler ouvertement ?»
Et Arminas t'a posé cette question à ce que je pense, parce que ces choses connues, de tous ceux qui vivent près de la mer, Coulmo porte un grand amour pour la maison de Hador. Et certains disent que Hurin et Uor, son frère, ont visité un jour le royaume caché.
Si cela a été, alors Hurin se serait gardé d'en rien dire mot à personne, ni au grand ni au petit, et encore moins à son fils tout enfant, répondit Turin. Aussi, je ne crois pas qu'Arminas m'ait demandé cela dans l'espoir d'apprendre quelque chose au sujet de Turgon. Je me méfie des messagers fauteurs de troubles.
Garde ta méfiance, dit Arminas furieux. Gelmir se trompe sur mon compte. Je t'ai demandé cela parce que je doutais de ce qui semble ici être couramment admis, car tu ne ressembles guère à ceux du sang de Hador, quel que soit ton nom. Et que sais-tu donc à leur propos ? Dit Turin.
J'ai vu Urin, répondit Arminas, et ses pères avant lui. Et dans les solitudes du Dorlomine, j'ai rencontré Tuor, fils de Uor, le frère de Urin. Et lui est semblable à ses pères quand tu ne l'es point.
Cela se peut, dit Turin. Encore que de Tuor je n'ai jamais entendu parler avant aujourd'hui. Mais si mon chef est noir et non pas doré, je n'en suis pas honteux, car je ne serai pas le premier fils à ressembler à sa mère. Et je suis issu de Morwen Eledwen, de la maison de Beor, parente de Beren Camlost.
Je ne parlais point de la différence entre le noir et l'or, dit Arminas, mais de ceux de la maison de Hador ayant tout autre usage et Tuor parmi eux, car ils ont manière courtoise, et ils écoutent les bons conseils et tiennent en révérence les seigneurs de l'Ouest. Mais toi, semble-t-il, tu n'écoutes que ta propre sagesse ou les dictées de ta seule épée, et tu parles avec dédain. Et je te le dis, Agarwen Mormegil, si tu agis ainsi, ton destin sera tout autre que celui auquel pourrait prétendre un qui est issu des maisons de Hador et de Beor.
Mon destin a toujours été autre, répondit Turin. Et si, à ce qu'il paraît, je dois supporter la haine de Morgoth en raison de la vaillance de mon père, me faut-il également endurer les sarcasmes et les paroles de sinistre augure d'un fugitif, même s'il se dit en parenté avec des rois ? Voici mon conseil. Va-t'en vite te mettre en sûreté sur les rives de la mer. Egelmir et Arminas s'en furent, et ils retournèrent vers le sud. Et malgré les railleries de Turin, ils auraient volontiers marché au combat aux côtés des leurs. Et ils partirent uniquement parce que Círdan leur avait enjoint, sur ordre d'Ulmo, de lui rapporter des nouvelles de Nargothrond et de la rapidité avec laquelle leur message y arriverait. Et Orodreth fut troublé par les paroles du messager. Mais l'humeur de Turin s'assombrit d'autant, et il ne s'avisa pas d'écouter ses conseils une seule seconde, et encore moins de détruire le grand pont. Car des paroles d'Ulmo, celles-ci au moins, ils avaient déchiffré correctement. Nulle part explique-t-on pourquoi Gelmir et Arminas, mandés d'urgence à Nargothrond, furent envoyés par Círdan le long de la côte jusqu'à l'estuaire du Drengist. Arminas dit que cela fut fait pour assurer la rapidité et le secret. Mais le secret aurait été mieux protégé s'ils avaient remonté le cours du Narog depuis le sud. On peut penser que les décisions de Círdan répondaient aux ordres d'Ulmo, afin qu'il puisse rencontrer Tuor au Dorlomine et le guider jusqu'à la porte des Noldor. Mais ce n'est nulle part suggéré.